Bonjour à tous. Et si je vous proposais une discussion autour d'un thé? À chaque échange, je serai accompagnée de professionnels, de parents, voire de jeunes, pour aborder une thématique sucrée liée à la parentalité. Aujourd'hui, nous recevons trois profils différents, trois visions. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, mesdames? Marilyn, comment tu vas?
Ça va bien, et toi?
Très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais?
Donc moi, je m'appelle Marilyn, je suis sophrologue et maman d'un petit garçon de 10 ans.
D'accord, très bien. Stéphanie, comment tu vas?
Ça va.
Ça va?
Ouais.
Est-ce que tu veux bien te présenter, Stéphanie?
Donc Stéphanie, greffière à la Cour nationale du droit d'asile, j'ai 48 ans et j'ai une fille de 17 ans.
Ok, ça marche. Bonjour Nawel, comment tu vas?
Bonjour, ça va.
Est-ce que tu veux bien te présenter aussi et nous décliner ton âge?
Alors Nawel, 28 ans, 44 ans, le vrai âge. Et trois enfants.
Et trois enfants. Merci Nawel. Barberiche, on ne te présente presque plus, mais
non, plus
qui
besoin.
Es-tu? Dis-le-nous.
Je suis un chroniqueur exploité.
Exploité, carrément.
Exploité, ouais.
Ah,
exploité. Je dois donner mon âge aussi?
Bah bien sûr,
bah oui.
Ton âge.
44 ans.
As-tu des enfants, Barberiche?
J'ai trois enfants.
Ok, quel âge ont-elles?
15, 13 et 11.
Très bien. Il est temps de poser la thématique du jour. On a Booba qui nous rejoindra en cours d'émission. Parents solo, famille recomposée, on en parle ou pas? Vous êtes prêts?
Oui.
Alors ma première question pour vous, c'est selon vous, et on a bien dit selon vous, qu'est-ce qu'une famille monoparentale? Qu'est-ce qu'on appelle une famille monoparentale, Steph, pour toi?
Moi, pour moi, une famille monoparentale, c'est un père ou une mère qui élève seul son ou ses enfants.
Ouais, ok.
Maintenant, monoparentale, ça ne veut pas dire qu'il est isolé du monde. Hein. Il y a la famille aussi autour. Donc, voilà, pour moi, c'est ça.
Ok. Est-ce que quelqu'un a une définition différente ou veut apporter quelque chose? Parce que là, c'est intéressant ce qu'elle dit, Steph. Ça ne veut pas dire qu'il est...
Moi, j'ai mon ami Google qui m'a envoyé un texto. Et qui dit que c'est mère ou père sans conjoint ou conjointe, ni partenaire en union libre, qui habite un logement avec un ou plusieurs enfants.
Ok, ça marche. On peut peut-être faire un petit tour de table. Ce qui est certain, c'est qu'on est tous parents. Mais parmi nous, est-ce qu'on peut dire si on est parent solo ou famille recomposée ou issu d'une famille parent solo ou recomposée?
Moi, parent solo.
Ok. Moi, du coup, en couple, mais je suis issue d'une famille d'abord monoparentale et ensuite recomposée.
Moi, je suis issue d'une famille non monoparentale. J'ai été longtemps mère célibataire. Et maintenant, je suis issue d'une famille recomposée. Enfin,
ouais,
je suis dans une famille, pardon, dans une famille recomposée.
Ok, ça marche. Nawel?
Oui, la question.
C'est quoi, question? C'est quoi ton modèle familial? Est-ce que tu es maman solo? Est-ce que c'est une famille recomposée?
Ah, moi, dans quelle...
Toi, ouais.
Moi, je suis maman solo.
Ok, ça marche.
J'élève seule mes enfants.
Ok. Barberiche?
Moi, j'ai une femme qui est chiante.
Moi, je suis pas ta femme, personne.
Et ouais, je suis issu d'une famille mono. Il y a eu un moment où, oui, j'étais dans une famille monoparentale. Ensuite, non. Et ensuite, oui.
Donc, alors, toi, tu vivais avec ta mère ou ton père?
Avec ma mère.
Ok, donc en fait, ta mère t'a d'abord élevée seule.
Ma mère m'a élevée seule.
Ok.
Ensuite, elle s'est mise en union avec une personne. Et cette personne est partie après.
Donc ouais.
Je suis redevenu...
Toi, t'as fait ping-pong.
C'est exactement ça.
Alors, du coup... Pour ceux qui sont...
C'est de moi que tu te moques.
Ouais, carrément. Pour ceux qui vivent justement sous le modèle, ou en tout cas, même si vous ne vivez pas... Qu'est-ce qui est difficile quand on passe part en solo, quand on passe de cette composition familiale à trois, ou bien pas, parce qu'il y a aussi des gens qui vont directement entamer une vie en tant que famille monoparentale, qui vont concevoir un enfant et qui vont l'élever seul dès le départ. Mais
par choix.
Qu'est-ce qui est difficile? Ouais.
Moi, ça n'a pas été difficile. C'était limite un soulagement, en fait.
Ouais, tu nous racontes un peu.
Bah, c'était dur, on s'entendait pas. Vraiment, l'arrivée de cet enfant, de mon fils, ça a été un bouleversement pour tous les deux. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Et qu'on change aussi bien lui que moi, en fait, à l'arrivée de notre fils. Et en fait, ça a été ouais, vraiment un soulagement de plus l'avoir... ouais, tout le temps là, en train de me dire des trucs, en train de j'avais l'impression de gérer, qu'il fallait que je me gère, qu'il fallait que je gère mon fils, et en plus que je le gère lui. Enfin, c'était juste, moi j'étais fatiguée. Puis on s'est séparés vraiment très peu de temps après que mon fils soit né. Donc, je crois qu'il avait 2 ans.
Okay.
Donc, c'était vraiment un soulagement, je l'ai vraiment. Mais je pense aussi, c'est parce que j'étais entourée. Et je pense qu'effectivement, moi après, c'est drôle parce que quand tu deviens maman solo, tu rencontres plein de mamans solo, ouais. Comme si on s'attirait c'est les vrai. Unes aux autres. Ouais. Et des fois, tu rencontres des femmes qui sont seules, qui n'ont pas de famille, le père n'est pas présent. Enfin, je me doute que ça doit être dur. Mais dans mon cas, en tout cas, j'étais entourée et ça a été vraiment ça m'a fait beaucoup de bien.
Du coup, pour toi, le gros changement, il se situe plutôt sur la sérénité.
Ouais. En fait, après, clairement, j'ai été triste. Ça m'arrive des fois d'être triste pour me dire il n'y a plus de famille, en fait. Tu vois, le terme famille est différent. Il y a des fois où, ça m'est arrivé où je me suis dit, j'aurais tellement aimé qu'on soit trois à vivre ça, tu vois, au lieu d'être que tous les deux. Mais c'est des passages qui sont...
temporaire.
Tout le bénéfice, toute la sérénité que j'ai eue après, enfin, il n'y a pas photo, quoi.
Ça marche. Steph, du coup, quel a été le gros changement? Déjà, vous êtes séparés au bout de combien de temps après la naissance de ta fille? Et quel a été le gros changement pour toi?
Nous, on s'est séparés au bout de 6 mois. Elle avait 6 mois. Le choix, il était mûrement réfléchi. J'ai aucun souci avec ça. Je rejoins Marilyn. Dans un soulagement, quoi. Tu te sépares d'un boulet parce que tu as ton enfant, il faut que tu gères ton enfant et que tu n'as plus le temps pour t'apitoyer sur l'autre. Et par contre, pour moi, ça a été difficile. Alors, soulagement et à la fois difficile de vivre l'échec de la famille, l'échec de l'image dans laquelle j'ai grandi, un père, une mère, qui sont ensemble jusqu'à la fin malgré les complications. Ça a été difficile parce que tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça te tombe dessus, faut l'encaisser, le truc. Donc voilà. Mais pour moi, ça a été que du bonus parce que t'as qu'une personne à gérer, tu te concentres sur ton enfant, en fait. T'as plus... Voilà, c'est comme ça.
D'accord, ça marche. Nawel ?
Ouais, moi, je rebondis sur, avant d'oublier, si je peux,
oui.
Ce que disait Marilyn et après Stéphanie, c'est le fait que... par rapport à le fait de se sentir seule. En fait, si on n'est pas bien entouré en tant que maman solo, après une séparation avec les enfants, on peut vite chuter. C'est-à-dire, moi, j'ai vu la différence et j'ai vu. Hein. C'est-à-dire que quand on est seul, pas bien entouré, famille, c'est autrement. C'est pas pareil. C'est-à-dire, on met plus de temps à se relever. Et l'échec, il est encore plus marquant.
D'accord. Et tu voulais rebondir aussi sur ce que...
Stéphanie, l'image de la famille, des deux, Marilyn et Stéphanie, c'est que l'image de la famille, moi aussi, ça c'est un truc qui s'est brisé pour moi. C'est-à-dire le mariage, c'était pour toute la vie pour moi. C'était quelque chose pour toute la vie. Et le fait est aussi d'être en échec par rapport à mes enfants. C'est-à-dire, est-ce que
tu t'es senti en échec?
Oui, que c'est de ma faute, que ça s'est brisé... je rebondis aussi, c'est que nous, les femmes, on culpabilise. On se dit, c'est ma faute, j'aurais dû peut-être patienter, j'aurais dû peut-être, et si. Et l'entourage, franchement, l'entourage, c'est très, très, très important. Et c'est pareil, l'image de la famille, que c'est ça qui manquait de la famille. Et je trouve que c'est pas sécurisant aussi pour une femme. Moi, je me suis sentie à un moment donné, comme si que je tombais dans le vide. J'étais pas en sécurité.
Tu te sentais pas en sécurité?
Non, je me sentais pas sécurisée. Comme si que j'étais une moitié, je sais pas comment expliquer, pas en sécurité. Hein. Mm-hmm. Vraiment, c'est déstabilisant.
D'accord.
En fait, moi, j'ai
en fait,
vécu comme ça.
En fait, le plus dur, je sais pas si vous avez vécu ça aussi, c'est après, c'est l'annonce à la famille.
Ah ouais,
c'est autre chose.
Bah, on peut en parler maintenant. Du coup, comment on annonce à sa famille, à ses proches, qu'on va se séparer et comment c'est accueilli?
En fait, toi, t'as besoin, enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, t'as besoin de soutien. Et j'ai eu l'impression qu'il a fallu que je soutienne ma famille dans cette épreuve, alors que c'était moi qui étais clairement en souffrance et que j'avais vraiment besoin. Et ça a été surtout avec ma mère où on s'est beaucoup embrouillé, en fait. Parce que je disais, mais j'ai besoin de toi. Arrête de me dire que t'es triste, que t'aimerais qu'il... Enfin, c'est juste insupportable. Juste sois là. Et c'est tout ce que je te demande, où à chaque fois, elle disait, oh, le pauvre, ton fils est en train de pleurer, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas son...
C'était culpabilisant.
Voilà, j'avais juste besoin, et moi, ça m'a beaucoup apporté aussi personnellement, après, où je me suis dit, quand quelqu'un a besoin de toi, il n'a pas besoin de toi à parler forcément, c'est juste, qu'est-ce que je peux faire pour toi là? T'as besoin de quoi là maintenant? Et on n'a pas forcément besoin de parler, ou juste écoute-le. Ne rebondis pas sur ce qu'il est en train de dire.
Ou être présent.
Voilà, ou être présent. Mais tu n'as pas besoin. Et moi, ça m'a beaucoup apporté pour, avec ma famille après et mes amis après, pour me dire, OK, quand des fois, voilà. Mais c'est vrai que l'annonce a été dure et j'ai mis du temps avant de le dire.
Hein. T'as mis du temps?
Ah ouais, j'ai mis. Je crois que. Alors après, ça dépend des gens, mais y a, on va dire, majoritairement, j'ai dû mettre 4-5 mois.
Ouais, ok.
Et ma mère, je crois que c'est elle qui l'a su en dernier, parce que
je savais
que ça allait être dur. Donc je me disais, il faut que je me sente déjà un petit peu plus forte pour lui dire, parce que je savais que ça allait être qu'elle allait partir en vrille, quoi.
Ouais. Steph, l'annonce, bien accueillie, pas.
Moi, dans cet échec, moi je parle de l'échec de l'image familiale. Hein. Après. Non, j'ai eu la chance d'avoir été soutenue par et mes parents et mon entourage. Au contraire, mon père, plus vite je partais, mieux c'était. Donc, j'ai pas eu de soucis avec mes parents, parce que le truc, c'était que l'enfant soit au mieux et qu'elle ne vive pas dans des conflits en permanence. Donc,
bien accueilli.
Ouais.
Noël?
Comment la famille
Comment tu... Ouais. En fait, c'est le propos de Marilyn, c'était de dire, pour elle, ce qui a été le plus difficile, c'était l'annonce. Toi, comment tu as vécu ce moment-là?
Dur, parce que chez nous, c'est encore autre chose. Moi, c'était, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et qu'est-ce qu'ils vont... C'est encore une culpabilité en plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Patient, et il fallait encore que ce soit moi qui patiente. Moi qui prenne sur moi. Moi, c'était encore plus... Ouais.
Ça, on retrouve
et c'était
ça.
Moi le problème. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas assez, moi qui n'étais pas ceci. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Alors là, encore plus de culpabilité. Alors que moi, j'étais pas bien aussi. J'étais mal et je leur disais, je vais pas bien, ça va pas et tout. Et c'est ça qui est dur. Il faut avoir le soutien aussi. Parce que c'est encore la femme le problème des fois. Chez certains, même en 2024, le problème, c'est forcément la femme.
Et le regard des autres.
Ouais.
Anne, comment tu accueilles l'annonce, si tu l'accueilles? Déjà, est-ce que tu te souviens de la séparation de tes parents?
Non, j'étais trop petit.
Ah, ok. Donc, du coup, l'annonce, est-ce que tu te souviens de quand tu as questionné ta mère pour la première fois sur « Il est où mon papa? Est-ce que j'ai un papa ?»
Non, moi, c'est très compliqué parce que moi, c'est un sujet tabou. Donc, du coup...
Pourquoi tabou?
On n'en parle pas.
Pourquoi tabou? Parce que est-ce que c'est... Pour toi, ton ressenti, en tout cas, que c'est douloureux, que c'est tabou,
Pour moi, c'est pas tabou. C'est pas un sujet tabou, surtout que maintenant je suis adulte, donc c'est pas un sujet tabou. Mais je pense que ça crée une telle douleur chez ma mère que elle veut pas en parler et qu'elle m'en a jamais parlé.
Du coup, il y a jamais eu.
Non.
Il y a jamais eu une mot posée.
Non.
Ok.
Ou sinon, t'as jamais forcé.
Ou sinon des disputes.
Steph, elle te demandait, t'as jamais forcé?
Si j'ai jamais forcé, non.
Ok.
Non, parce que, en fait, ce qui est paradoxal ou compliqué, je sais pas, par la force des choses, en fait, je me suis construit seul, sans mon père biologique, je dirais. Et, Et j'ai pas forcément ce besoin.
D'accord, ça marche.
J'ai pas, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, je le vois après tant d'années d'absence.
Combien? T'as quel âge?
Non, je l'ai pas vu pendant. Non, mais je l'ai pas vu pendant une vingtaine d'années quand même. Ouais, à peu près 20, 24, 25 ans.
C'est au bout de 24, 25 ans que tu.
Que j'ai revu.
Que tu as revu ton père et que tu vois son visage. Quoi.
Ouais, voilà, que j'ai pu mettre un visage en fait. Mais même aujourd'hui que je le vois de temps en temps, j'ai pas ce besoin de savoir ce qui s'est passé, lien, tout ça. Je laisse ça au passé en fait.
Ça fonctionne.
Ouais, ça fonctionne.
Quels sont selon vous les points positifs ou négatifs de vivre seul avec son enfant? Est-ce que vous identifiez des points positifs, négatifs? Est-ce que pour vous il y a les deux? Est-ce que pour vous il n'y a que du positif ou du négatif?
Juste comme on passe sur un autre volet là, je voulais rebondir sur les séparations parce que vous avez pas forcément bien vécu les séparations, mais vous vouliez de ces séparations. De ce que j'entends de vos deux situations, en tout
même,
cas.
Même Nawel.
Je la voulais, mais on ne veut pas accepter. On veut quand même y croire. En fait, on ne veut pas de la souffrance qu'il y a derrière. C'est un échec. Donc, et c'est douloureux aussi.
C'est intéressant ce que tu dis.
C'est douloureux. C'est douloureux. Même si on sait qu'on n'est pas. Excuse-moi.
Non, allez-y.
Même si on sait qu'on n'est pas bien dans cette relation et qu'on en souffre, c'est quand même un échec. Parce qu'on veut quand même. On a voulu quand même y croire et être une famille. Comme a dit Marilyn et Stéphanie, on a voulu être une famille.
Alors qu'on est quand même une famille.
On a aimé ces personnes-là, on les a aimées. L'amour, ça part pas comme ça. Ouais. Hein.
Mais du coup, je vais revenir sur Stéphanie et Marilyn. Qu'est-ce qui fait, ou même tout le monde, qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, parce que là, maintenant, si on regarde les statistiques, on voit de plus en plus de familles monoparentales. Moi, je me rappelle qu'à notre époque, on avait un film culte, Génial, mes parents divorcent. En fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que dans une classe, il y avait plus d'enfants étant dans une famille avec papa, maman, que de familles divorcées ou monoparentales, du coup. Maintenant, on peut voir que c'est presque l'inverse qui se produit. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, les gens avaient plus de mal à se séparer?
Il y avait plus de patience.
Et la pression, à l'époque, est-ce que c'était acceptable?
Et le regard des
gens. On va dire il y a 30 ans. Il y a
parce que c'était mal vu,
40
je pense.
Le regard des gens, comme Aminata, le regard des gens.
C'était pas acceptable.
C'était tabou, déjà d'une. Et les gens impatientaient plus. C'était pas la même. Maintenant, c'est au moindre truc. On est dans une société de consommation. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup. On est dans une société de consommation. C'est pas pareil.
Et puis, il y a plein de leviers différents. Enfin, à mon sens, il y a plein de raisons différentes. Déjà, le pouvoir d'achat des femmes, leur liberté, leur capacité à être autonome financièrement, il y a un sujet selon les époques. Il y a des époques où c'est l'homme qui travaillait, la femme ne travaillait pas. Donc déjà, elle pouvait pas se séparer. Financièrement, elle pouvait pas. Après, il y a aussi tout ce qui est lié à la religion. En fonction de l'époque à laquelle on parle, il y avait cette pression de la religion, quelle que soit la religion. Où,
subir,
en fait, tu te maries, c'est jusqu'à la vie. En fait, tu divorces pas. Après, je pense aussi que le regard des autres, de la société, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Et je sais pas, quand on regarde les films un peu à l'ancienne, en plus, c'était assez protocolaire. Les rencontres étaient orchestrées, organisées. Il y avait des enjeux économiques pour les familles. On mariait sa fille avec telle personne pour agrandir son patrimoine, hors de question de divorcer. Enfin, il y a plein de choses. Et je pense aussi que avec l'émancipation des femmes, le fait qu'on devienne autonome, bah déjà, forcément, ça nous permet d'eux. Et puis, la parole. La communication, la société a bougé, les droits. Enfin, il y a des femmes qui sont battues pour
le droit de s'exprimer.
C'est
si
ça.
Je puis dire, Aminata, parce qu'on n'avait pas le droit de dire que j'ai mal, je souffre, je ne vais pas bien. Moi, je le dis parce que même encore, on n'a pas le droit.
Et même dans ta maison, tu parlais. Enfin, il y a des périodes où tu parlais pas.
Voilà.
Ta femme, elle parle
pas. C'est tabou encore. Dans certains cas, c'est encore tabou.
Ouais.
On n'a pas le droit de souffrir. C'est ferme ta bouche. Je ramène le loyer. Je te fais des enfants, ferme ta bouche aussi pour être poli. Voilà, c'est arrête d'exagérer.
Et on parle même pas de
dire qu'on est en souffrance.
Ouais, et on parle même pas de l'époque où la femme était la propriété des hommes. C'est-à-dire que tu étais la fille de ton père, tu appartiens à ton père, tu n'existes pas, tu n'as pas le droit de vote, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Mmh. Et quand tu sortais de chez ton père, c'était pour être la femme de ton mari. Donc déjà, ça en dit long. Et tout ça, avec l'évolution sociétale, l'évolution des droits, l'accessibilité au travail, etc., je pense que déjà ça, ça a permis de libérer une bonne partie des femmes. Après, tu parlais de chiffres. Anne, on est à peu près aujourd'hui à 1,9 million de familles monoparentales et on note une augmentation des divorces. Il y a eu un pic dans les années 90. Hein? Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Sauf que, ouais, il y a eu un pic, mais encore à l'époque, en tout cas, moi, c'était quoi, 2006 ?
C'était encore mal.
Ouais, c'était encore difficile et des fois, alors même si tu assumes ta situation et que voilà, tu sais que c'est un choc que tu as fait et que tu vas aller jusqu'au bout, mais quand tu te retrouves avec tes amis, en communauté, etc., et ben, tu te sens quand même à la marge. Tu te sens marginal un petit peu, entre guillemets, parce que tu dis, mais il y a que moi en fait qui suis pas...
Puis on te fait des remarques.
Qui suis seule avec mon enfant, etc. Et du coup, ça, il faut l'assumer.
Mais on est les seuls qui osent, parce que moi, franchement, quand je regarde mes copines, certaines de mes copines, hein, pas toutes, mais je sais, enfin, je vois très bien comment ça se passe, et je vois très bien comment c'est difficile, et je sais, enfin, on sait, hein, on sait très bien, tu vois. Et en fait, elles n'osent pas y aller. Clairement, moi, j'ai des amies, je pense qu'elles devraient se séparer. Ouais. Enfin, la façon dont le mec lui parle, la façon dont elle se sent mal dans son couple depuis des années. C'est toxique depuis des années. Mais c'est... Non, mais pour les enfants. Mais comment ça, pour les enfants?
C'est vrai, j'ai
Et moi, clairement, mes parents se sont séparés tard. J'avais 30 ans quand ils se sont séparés. Et ils auraient dû se séparer.
Toi, tu te retrouves dans le film de Anne.
Ah non, génial, mais ils auraient dû divorcer. Alors, c'est pas qu'ils s'embrouillaient de ouf, mais en fait, ils nous ont montré un modèle de couple toxique. Donc, du coup, forcément, moi, je me suis construit et en ayant un modèle de couple toxique au sein même de ce que j'étais en train de vivre. Parce que c'était mon modèle inconsciemment, en fait, j'ai reproduit ça. Et en fait, ma mère est restée pour les enfants. Et j'ai encore des copines qui me disent qu'elles restent pour les enfants et aussi pour le confort financier. Parce que même si elles peuvent s'assumer financièrement,
ça change ton train de vie.
C'est plus la même. On est d'accord. Mais c'est comment tu... Moi, une fois, une copine, j'en ai parlé. Je fais, donc en fait, tu acceptes en fait que ton mec te parle comme ça devant tes filles. Donc ça veut dire qu'elles vont faire quoi quand elles vont être plus grandes? Ça veut dire qu'elles vont se laisser parler comme ça, en fait, par leur mec. On est en train de reproduire le schéma. Mais c'est dur, en fait. C'est dur, je comprends.
Il faut avoir du courage.
Mais nous, on est les seuls à avoir osé. Et c'est dur. Et ça veut dire que tu assumes et tout ça. Je rejoins ce que tu disais. Mais tu as encore beaucoup de femmes. Tu as encore beaucoup de femmes et d'hommes. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est important. Parce qu'on a toujours l'impression que famille monoparentale rime avec... mère.
Oui, mais
parce
pourquoi
que c'est
Anne
le plus souvent les cas. Anne, je suis désolée. Hein.
Enfin, maintenant, ça se régule. Maintenant, ouais, le juge des affaires familiales, le juge d'enfants, etc. Clairement, aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de garde alternée, il faut un vrai dossier. Il ne suffit pas d'arriver en disant je veux la garde totale, c'est la garde alternée qui est privilégiée. Mais c'est surtout que pendant très longtemps, la femme, c'est un peu l'éducation. On voyait la femme comme si elle était parfaitement conçue.
Là, il n'y a pas d'égalité.
Pour... Ouais, mais là, il n'y avait pas d'égalité. Et il y a des hommes qui, malheureusement, c'était la femme qui était défaillante et toxique pour les enfants et qui, à l'époque, la question, elle ne se posait pas. Là. Les enfants, ils vont avec et ils ont dû se battre aussi pour obtenir...
Il y en a, ça, c'est vrai.
Il y en a qui le font parfaitement bien aujourd'hui.
Mais il y en a de plus en plus. C'est vrai que ça, pour mon cas, moi, je trouve que c'est une injustice, c'est plus la femme, moi c'est mon cas, où l'homme il se décharge, où il se sauve, où il se... Voilà. Après je dis pas que c'est tout le monde.
Ça reste encore une majorité quand même de,
voilà.
De mecs qui partent.
Moi je dis bravo, respect aux pères qui prennent leurs responsabilités et qui sont investis. Quoi.
Mais des fois, bon je vais garder ça pour
non,
moi.
Non si, dis-le.
Non mais en fait c'est super intéressant d'aborder ce genre de thématique parce que souvent on aborde ce genre de thématique toujours du prisme de la femme.
Ouais.
Toujours. L'homme qui s'en va, l'homme qui laisse les enfants. Mais à un moment donné, je pense, après je ne veux pas faire l'avocat des hommes. Mais lorsqu'il y a rupture, il y a des, comment dire, des raisons. On va dire que les... comment on dit ça ? J'en perds mes mots.
La
responsabilité vient des deux. Et parfois, la responsabilité vient aussi de la femme. C'est-à-dire que, à part si l'homme est malveillant, l'homme ne va pas se lever un matin et dire « vas-y, je m'en vais ». Surtout si quelque chose a été construit. Et je trouve que souvent, il y a très peu de remise en cause ou en question de la femme elle-même par rapport à son comportement. Donc après, je ne veux pas faire de généralité, parce qu'après, chaque histoire est sa propre histoire et est singulière. Mais moi, je trouve en tout cas que lorsqu'on rentre dans ce genre de débat, on voit toujours les choses du prisme de la femme, par rapport aux émotions de la femme, aux ressentis de la femme, mais on ne prend jamais la vision et la parole de l'homme.
Pas toujours.
Parce que
nous, on parle trop.
Que dans un couple, un homme aussi, il supporte énormément de choses. Et à un moment donné, quand il y a un trop-plein, tu pars.
Mais il a le droit de partir, Anne. En fait, si je peux... moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a rien de. Mais je suis pas tout à fait d'accord dans ce que tu dis. Le fond, je comprends. Je t'entends, je comprends. Moi, personnellement, mais il y a des femmes qui se remettent en question, Anne.
Bien sûr.
Qui se battent, qui se remettent en question, qui acceptent des choses qui n'ont même pas à être acceptées. C'est le problème, c'est pas qu'il parte. Il a le droit de partir. Quand ça va pas, chacun a le droit de partir. Moi aussi, dans ce cas-là, j'ai le droit de partir. Moi aussi, j'ai le droit de faire ma vie. Là, on parle pas de. Qui a tort, qui a raison. Moi, je comprends que toi, tu le vis comme ça en tant qu'homme. Moi, je le comprends. Mais moi, je me suis posé la question après, avec du recul. Il y a des femmes qui se remettent en question. Oui, c'est vrai que ça a été trop pour lui. Oui, c'est vrai qu'il y avait trop de pression. Moi, je me suis posé cette question. C'est quoi ? J'ai fait quelque chose. Après coup, j'ai dû faire des choses. Oui, on a des fautes. On n'est pas parfait. On se remet en question. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'améliore en tant que femme et en tant que parent. Mais le problème, c'est qu'il a le droit de partir. Moi, je lui ai dit, t'as le droit. Mais comment partir ? Pas en insultant. Pas en rabaissant, pas en détruisant une famille, pas en rabaissant la mère de tes enfants. Tu veux partir, tu pars, mais tu prends tes responsabilités par rapport à tes enfants. Il y a l'homme, Anne, et il y a le père. C'est pas pareil. Il y a la mère, il y a la femme, on est des personnes, tu vois, c'est pas pareil. Il part, il veut partir, fais le bien. Tu pars, on s'entend plus, on n'est plus ensemble, pour toutes les femmes. Mais par contre, tu prends tes responsabilités et tu ne détruis pas tes enfants.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Là, c'est un autre sujet. Tu vois.
Bien sûr.
Là, on ne parle plus que de.
Parce que, en fait, moi, ce que je voulais. Après, Ami, je te laisse.
Je te laisse poursuivre.
Mais en fait, moi, ce que je voulais décrire dans mon propos, c'est que souvent, sur cette question de famille monoparentale, et bien souvent, c'est des femmes qui parlent. Alors que famille monoparentale, si on prend la définition, c'est un parent qui se retrouve seul avec un ou plusieurs enfants. Tout à l'heure, j'ai donné la définition, c'était ça la définition. Et souvent, lorsque, même dans la conscience collective, on voit souvent la femme. Donc c'est pour ça que je voulais juste rétablir...
Déjà, ça rejoint ton premier propos de pourquoi, dès qu'on parle famille séparée, souvent on se dit de fait que les enfants sont avec la mère. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de familles en France. Il faut savoir que la grande majorité, c'est encore 66% des familles qui vivent sous le modèle du couple. D'accord ? Sur ces 66%, il y a les 66%. Ensuite, il y a à peu près 25%, entre 24 et 25%, ce sont des données de l'INSEE, de familles qui vivent dans des situations de monoparentalité. 25%. Sur ces 25%, donc déjà, ce n'est pas la majorité. Et sur ces 25%, il n'y a que 18% de papas solo. Donc forcément, en fait, proportion gardée, ça sera tout le temps la femme qui sera mise en avant parce qu'on est plus nombreuses, parce que sur les 25%, c'est plus de 80%.
Combien de papas solo ?
Il y a 18% de papas solo sur les 25%.
C'est plus que pour la femme, alors.
Mais
non, c'est,
non.
Tu prends
25%. En fait, tu prends 25% et ça fait 80% de femmes solo pour 20% d'hommes. D'accord. Ça veut dire que, en vrai, si tu as 80% de mamans solo, forcément, qui prend le devant de la scène ? Qui est mis en avant ? Qui va parler de ces problématiques ? Ça veut dire que pour les hommes, déjà, ils ont gagné un peu de reconnaissance sur le fait qu'ils soient quand même là. Papa solo, ils existent. parce que c'est énorme en fait. Mais du coup, il faut-il encore qu'on leur donne un espace de parole.
Exactement.
Et faut-il encore que eux osent occuper cet espace de parole sans se faire laminer par les féministes, les autres mamans solo qui disent bah tiens, bah à votre tour en fait. Hein. C'est bon, nous, personne nous a plaint, donc une fois de plus, quand c'est les hommes, on va les prendre.
Et parler des émotions aussi pour un homme, j'ai l'impression que c'est plus difficile.
Comment ?
Parler des émotions pour un homme, c'est peut-être plus difficile.
Ils verbalisent moins leurs
sentiments des fois.
Parce que, au même titre que les femmes disent qu'il y a des injonctions de la société, et ben nous aussi, on a des injonctions.
Bah, bien sûr.
Ouais, clairement.
Nous aussi, on a des injonctions, donc je te rejoins. Je te rejoins, tu vois, dans ces situations-là. Tout à l'heure, vous parliez du fait de l'annoncer à la famille. Et bah, chez l'homme, je pense que ça doit être tout aussi difficile.
Du coup, Anne, est-ce que tu penses
hein.
Alors, c'est après, là, on peut se baser que sur... Est-ce que tu penses, Bouba pourra nous répondre, parce que lui, il n'est pas solo, mais est-ce que tu penses que pour un homme aussi, il y a ce sentiment d'échec, malgré tout ?
Oui.
C'est-à-dire que...
Moi, je pense que oui.
Est-ce qu'il y a ce sentiment d'échec ? Et est-ce que aussi pour même si on pourrait penser que l'homme, il peut dire, ouais, bon, on se sépare et qu'il n'y a pas forcément de retombées, mais tes parents, qu'est-ce qu'ils disent aussi, tu vois ? Genre, parce qu'être un homme, prendre ses responsabilités, tenir un foyer, etc., il y a aussi encore ce prisme des parents à l'ancienne qui disent que c'est à toi, monsieur, de tenir la maison. Et du coup, quand tu leur annonces que...
Il y a plus de facilité
Est-ce que tu penses qu'il y a quand même ce sentiment d'échec?
Moi, je pense que le sentiment d'échec, il existe, mais il reste officieux. Pourquoi je dis officieux? C'est qu'on reste quand même dans une société d'hommes. Et du coup, l'homme reste sur son piédestal malgré tout.
Ouais,
et je pense que l'entourage trouvera toujours
c'est bien de le dire,
une responsabilité chez la femme. En disant, voilà, ouais, je savais, elle était comme ça.
C'est ce que je te
ouais, je savais, elle était comme si. Ouais, et du coup, c'est une façon un peu de minimiser ou relativiser les choses. Mais je pense que de manière officieuse, le gars, quand même, il se dit... j'ai pas assuré. Parce que dans la conscience collective, même si c'est pas le cas dans tous les foyers, c'est l'homme qui est capitaine. Même si, bien entendu, qu'il y a une coéducation.
Heureusement, on n'ouvre pas le débat.
Non, mais je parle dans la conscience collective. Chacun...
Mais juste, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Anne, parce que c'est intéressant, en fait. Tu dis que c'est l'homme qui est capitaine. Il n'y a pas de souci.
Je ne suis pas d'accord, moi.
J'ai un peu de mal. Il n'y a pas de problème, admettons.
Partons de ce principe.
Sauf qu'il est capitaine quand il y a la femme. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire que 80% de... Combien de femmes monoparentales, de familles monoparentales avec la maman?
En fait, oui, c'est ça.
C'est ça.
En fait, il y a 24% de familles monoparentales. Et dans ces 24%, il y a 80% qui sont composées par des femmes.
Combien
papas? À peu près 18, entre 18 et 20, j'ai à arrondir.
D'accord. Qu'est-ce qu'on dit quand c'est le papa qui est seul avec ses enfants?
Tout le temps, on dit « Oh, le pauvre !»
Et c'est toi qui l'as dit, Nawel.
Il est trop mignon, ce papa, avec sa petite fille au parc. « Oh, le pauvre, il doit avoir besoin d'aide. »
Moi, je suis cernée,
non, on dit, franchement, félicitations à ses papas solo.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Ok, moi, ça me choque. Déjà, ça me choque parce que, pourquoi? Et nous, on ne nous félicite pas. Enfin...
Non, mais tu sais...
Attends, Anne, s'il te plaît.
Vas-y.
D'accord.
Ça va faire mal.
C'est pas méchant ce que je dis. Je dis juste qu'on a chacun le même rôle face à un enfant.
Exactement.
Qu'on a voulu à deux. D'accord? Et qu'à un moment donné, pourquoi je te féliciterais toi alors que tu es en train de jouer ton rôle de père? Enfin, moi, je joue mon rôle de mère, je n'attends pas de félicitations, c'est mon rôle. Je l'ai choisi, fin de l'histoire. Toi? Pareil en tant que papa. Seulement, on dit, quand c'est un père qui assure, oh ouais, franchement.
Oui, mais pourquoi on dit, ouais, mais pourquoi on dit, ouais, mais pourquoi on dit ça?
Et alors, attends, je veux juste mettre.
Le coup final.
Non.
Elle a un couteau.
Non, mais c'est super intéressant.
Elle se sert de sa cuillère, de ta
Je veux juste te dire.
Super intéressant.
Parce que tu as dit deux choses très intéressantes. Tu as dit, c'est l'homme qui est capitaine, il n'y a pas de problème.
Si, il y a un problème.
Et tu as dit, l'homme, il doit assurer, on est d'accord. Y compris ta paternité, mon gars, en fait.
Mais moi je parle pas de... En fait, même dans ce que j'ai dit concernant le fait d'être capitaine, J'ai dit par rapport au regard de la société. J'ai dit dans la conscience collective.
Oui, mais tu c'est-à-dire, as raison,
oui,
en vrai.
Oui, mais dans la conscience collective. C'est-à-dire que ce n'est pas valable chez tout le monde et pour tout le monde.
Oui.
Parce que la réalité, c'est que dans un couple, et c'est important de le dire, le couple, il fonctionne dès lors qu'il y a un équilibre.
Oui, ça, c'est vrai.
Il faut un équilibre, en réalité. C'est-à-dire que...
C'est pour ça que je t'ai dit capitaine, mais quand il y a la femme.
Bah oui, ouais, pour créer t'es... l'équilibre. Parce que sinon, t'as pas besoin d'équilibre si t'es tout seul.
Parce que donc, l'homme, c'est capitaine. L'homme et il...
Non,
il
mais pour répondre à la question que tu me posais concernant le fait que lorsqu'un homme prend ses responsabilités, du coup, et fait des choses qui paraissent incroyables.
Il fait son rôle de papa, quoi.
Ouais, c'est mais ça encore, c'est dû aux injonctions.
Et
de la société, c'est-à-dire que vu que dans cette société on dit que tout ce qui est éducation, plein de choses doivent être faites par des femmes, dès lors que c'est un homme, c'est inhabituel et du coup on trouve un côté vertueux, un côté incroyable.
Et moi,
mais
ça me dérange mais que
ça, c'est
même
la société.
Une femme dise félicitations.
Mais c'est une construction. Mais ça, malheureusement, malheureusement, c'est une construction. Et je te donne un exemple très simple. C'est-à-dire que moi, par exemple...
C'est très rare, donc on le souligne.
Parce que ce qui est normal ne l'est plus.
Parce que regarde, Stéphanie, moi, je prends mon exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 filles. Pour ma 2e fille, c'est moi qui ai pris le congé. C'est moi qui suis resté à la maison. Mais moi, ça ne me pose pas de problème.
Ah ouais, pourquoi pas.
En plus, j'ai kiffé. mais tu comprends ouais. Mais je sais que la majorité des gens, ils vont dire...
Mais... Les gens, ils sont
les gens disent, mais comment ça Mais comment ça Normalement, c'est la femme qui aurait dû... Ta femme qui aurait dû rester à la maison et tout. Non, pourquoi
voilà.
Tu non. vois Mais parce que c'est une construction.
On va accueillir Booba qui vient d'arriver. Salut Booba, tu vas bien?
Salut, vous allez bien?
Il a vu que le débat était...
Booba, on te laisse quand même te présenter, même si on ne devrait presque plus, mais il y a tout le temps de nouveaux auditeurs. Donc, qui es-tu, Booba?
Booba, j'ai cofondé la récré avec ce monsieur qui est à ma droite, fondé avec d'autres le Média Bloquant Radio, Dis-nous les choses, et président de l'association Transmission 91.
Ok, tu es papa, Booba?
Oui, je suis papa. Oui.
Tu as combien d'enfants?
J'ai dit à Boubacar, j'en avais 4, mais en fait, j'en ai 2. Je compte mes neveux, mes nièces, tout, tu vois.
Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de commencer, on s'est arrêté 2 minutes pour savoir si on était papa solo, papa en couple, issu d'une famille traditionnelle ou pas. Et la question qu'on s'est posée pour que tu puisses aussi donner ton point de vue, c'était est-ce que le moment de l'annoncer, c'était difficile? Et quels ont été les gros changements, en tout cas, dans le fait de passer de couple à famille solo ou pas?
Annoncer quoi exactement?
La rupture.
Entrer dans des sujets chauds, là.
Ah ouais. En plus, comme tu arrives avec un peu de décalage, on va te cuisiner.
Ouais, c'est toujours compliqué. Hein. C'est des moments complexes. Tu vois, en plus, comment dire, il faut arriver à ménager les égos. Il faut arriver à, comment dire... contenir ses émotions. Là, on parle vraiment de la rupture, le moment.
Ouais, d'abord, on parle de. D'abord, donc, on comprend tout de suite que tu es papa solo, mais je l'avais dit avant que tu arrivais. Mm-hmm. Que tu arrives, excuse-moi. Donc, ouais, là, d'abord, on parle de la rupture. Au moment où on doit annoncer à ses parents qu'on ne sera plus une famille traditionnelle.
Après, je pense que les parents le sentent. Ils ont du vécu. À travers leurs yeux, on voit tellement de choses. Aujourd'hui, moi, je me dis. On a perdu du temps en ne passant pas ces temps avec nos parents, tu vois. Parce qu'à travers leurs yeux, on voit plein de choses, là. C'est-à-dire, ils sont là, ils avaient déjà vu certaines choses que nous, on ne voyait pas forcément. C'est comme si on était dans le retour vers le futur, et à travers leurs yeux, on voyait le futur, tu vois. Mmh. Et du coup, ils s'en doutaient quelque part, tu vois. Ils s'en doutaient, même si c'était pas vraiment... Ils se disaient, bon, vas-y, tenez comme nous, on a tenu. Parce que, malheureusement, les générations d'aujourd'hui...
Patience.
Voilà, on n'a pas la même patience que nos parents avaient jadis.
Est-ce qu'on n'a pas la même patience ou est-ce qu'aujourd'hui on conscientise et on assume le fait qu'on ne va pas accepter ce qui est inacceptable dans une société dans laquelle on prône le bien-être, la sérénité, la lutte contre les violences, toutes ces choses-là? C'est juste qu'aujourd'hui on a la possibilité de dire, alors qu'avant on devait se taire.
En vérité, même dans les exemples d'avant, en vérité, il y a des, il y a des, y a des gens... Tu sais, moi, j'ai tendance à dire comme quoi, si j'étais juge de séparation des couples, ça, ça n'existe pas, hein, mais je m'invente un métier, tu vois. Je séparerais des couples avant même qu'ils essaient de s'unir, tu vois. Parce que les gens sont pas...
C'est pas mal, ça. On va... Ouais.
Avant même que tu essaies, je dis non, ça sert. Non. Ne vous mettez pas ensemble. Ça ne tiendra pas. Vous voyez pas que ça colle pas.
C'est pas possible.
Je veux dire. Et en fait, beaucoup de nos parents, en vérité, surtout des mamans, elles ont subi des choses qui... C'est impensable.
C'est pas possible.
Tu vois. Et en vérité vraie, j'ai du mal à le dire, mais... Certaines n'auraient pas forcément dû rester, mais pour maintenir un équilibre familial, les on-dit surtout. Avant, il y avait beaucoup de on-dit. Hein, tu vois.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos potes qui n'auraient pas dû être là.
En quelque sorte. L'autre question qu'on était en train de se poser et qui nous a bien, bien fait débattre, c'était... La société, quand c'est une femme qui se sépare, voilà, quand c'est un papa solo, donc on donnait un peu quelques chiffres, on disait qu'il y a 8 millions à peu près de familles en France, 66% sont en modèle traditionnel, en couple en tout cas, 24% et des brouettes sont des femmes monoparentales, et dans ces 25%, non, dans 25% de familles monoparentales, et dans ces 25%, il n'y a que 18% d'hommes. D'accord. C'est-à-dire 80% des femmes, familles monoparentales sont composées de femmes et 20% d'hommes. Et notre question, c'était pourquoi on félicite les papas solo quand ils s'exécutent à leur tâche de parent et pas les femmes ? Et est-ce que les pères culpabilisent de l'échec du mariage ? Est-ce que pour eux, quand ils se séparent, ils ont ce sentiment de culpabilité ? Parce que les mamans disaient là, tout de suite, donc Nawel, Stéphanie et Marilyn, la difficulté, c'était cet échec face à la famille. Quand on se sépare, quand on ose se séparer pour notre bien-être, pour le bien-être de nos enfants, on a quand même cette culpabilité en se disant, j'ai échoué. Est-ce que toi, tu as ressenti ça ?
T'as vu l'interro ?
T'as vu ça ?
Aïe. Bah, fallait arriver à l'heure. Hein.
Si je peux me permettre, face aux enfants aussi.
Ouais, et face aux enfants aussi.
Je reviens sur des mots que Barberiche a prononcés juste avant, car c'est un peu ce que je pense. Il a parlé d'injonction et de construction sociale, tu vois. En vérité, vrai sur plein de thèmes, hein, que ce soit même l'infidélité, que ce soit plein d'autres choses. Il y a des injonctions et des constructions sociales. C'est-à-dire qu'une femme qui va se séparer d'un homme et un homme qui va se séparer d'une femme. En vérité, dans les faits, ça revient au même. Mais dû à ces constructions sociales, c'est plus grave qu'une femme se sépare plutôt qu'un homme dans la mesure où c'est comme si on avait donné un espèce de statut aux femmes comme quoi il faut être irréprochable. Oui. Et du coup, de par ce statut, bah, à un moment donné, entre guillemets, on en veut moins aux hommes qu'aux femmes de, comment dire...
Oui, vous avez plus droit à l'erreur que nous.
Ouais, c'est ça. C'est
super c'est... que ce soit un homme. J'ai coupé la parole, par
exemple. Non, pas de souci, t'inquiète.
Parce qu'après, je vais oublier. Vas-y, que ce soit un homme, c'est super important qu'ils le disent. Moi, je trouve ça... Bah, c'est pas vraiment vouloir, Stéphanie, parce que c'est rare, hein, maintenant.
Toujours, on félicite les hommes.
Ça, c'est très fort,
hein,
ce qu'il a dit. Faut
l'enregistrer. Ouais, mais c'est... De toute façon, il y a Maïva qui est là, qui...
Elle est témoin, Maïva, elle est témoin.
Qui est là, qui a tout pris.
Non, mais franchement, c'est... moi, je respecte, parce que c'est pas tout le monde qui le dit et qui se remet en question, parce qu'il faut que la femme, elle soit... Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, d'autres femmes l'ont vécu, et c'est très dur à
se porter. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais... Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que sur ces questions-là, généralement, quand on prend des plateaux, il y a que des femmes. Et donc, il est important de nuancer un peu, d'inviter des hommes.
Oui, mais même pour la parentalité,
on en parle. Chose que nous faisons très bien ici.
C'est pour ça que nous, on est. Il y a ce plateau mixte, en fait, pour qu'on ait vraiment des prismes totalement différents sur la question. Non, il n'y a pas de problème.
Même qu'on essaye de refaire sa vie, Aminata, tout le monde, je parle à tout le monde, et ben, je vous assure que j'ai essayé. Ils ont moins de patience. Là, on ne parle plus de souffrance. Il faut partir quand il y a de la violence. La patience, elle a des limites. On ne parle pas de souffrance. Là, il faut partir, même si c'est dur. On s'entend. Mais par contre, moi, j'ai réessayé avec quelqu'un que j'aimais, qui m'aimait. J'ai essayé. Le moindre défaut, je vous assure, Booba, si je peux me permettre, il n'a pas accepté. J'ai fait 80% des trucs qu'il me trouvait formidables. J'étais la plus belle des femmes, la meilleure des femmes. J'ai pas le droit d'avoir des défauts. Hein. J'ai eu des défauts. Je me suis remis en question. Il est parti. Il ne voulait pas revenir parce qu'il y a trop de choix. Ils veulent toujours des femmes irréprochables. Donc nous, les femmes, on doit être mère, on doit être femme. Je parle pas, je prends pas le parti, je suis pas féministe, hein, mais je trouve que c'est dur dans la société d'être une femme aujourd'hui, d'être une mère, parce qu'il faut être j'ai l'impression qu'il faut être irréprochable. Moi, je l'ai constaté en tous les cas.
Mais est-ce que chez les hommes maintenant, c'est pas un peu le cas? Est-ce qu'il y a pas de, parce que si. Moi, de ce que j'entends, de ce que je vois de la nouvelle génération aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences quand même.
Oui, ça c'est vrai.
Maintenant, je donne un exemple, c'est-à-dire que à l'époque, on, de ce que je crois, on attendait juste qu'un homme, il assure. Mmh. On parle d'injonction, on parle de construction, son rôle d'homme. Mmh. Donc cette sécurité affective qui ramène de l'argent pour faire vivre le foyer décemment. Mmh. Mais je crois qu'aujourd'hui, les critères, ils sont... ouais. Ça y est, maintenant, on a l'impression d'aller louer une voiture.
Parce qu'on a accepté...
On veut les options, oui, on veut...
Mais parce qu'on a beaucoup accepté, je pense, les femmes, le bas de gamme. Je suis désolée de le dire, hein, entre guillemets.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais,
ça s'appelle comme ça.
Le bas de gamme.
Ouais, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup... En tout cas, ma génération de femmes, on a...
Tu peux dire de quelle génération t'es?
Oui, 1975. On a beaucoup joué le rôle d'assistante sociale. Et moi, la première, c'était trop bien, on paye les gens. Aussi. D'assistante sociale, et en fait, ça ne paye pas. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide. Bref, et du coup, je pense que, ouais, on sait, on a accepté le bas de gamme, aussi. Et maintenant, la vapeur s'inverse, et on a des exigences.
Mais du coup, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas trop d'exigences? Par exemple, moi, ce que je vois des fois sur des débats, même des débats, je travaille dans un centre social. Il y a plein de filles qu'on suit avec d'autres collègues qui faisaient une raclette pour se réunir, tout ça. Donc après, elles aiment bien lancer des débats, tu vois. Et du coup, quand j'arrive, elles disent, les filles, si votre mari touche le SMIC, vous vous mariez avec lui ou pas? Il y en a une qui a dit, moi, c'est l'étal, c'est comme ils disent les jeunes, moi, c'est l'argent qui compte. Et je veux que mon mari, il touche 4000 euros minimum, voire 5000 euros.
Ça, c'est du n'importe quoi.
Et c'est une espèce d'injonction, là. Enfin, c'est une espèce d'un concept qui est en train d'évoluer là. Il y a des filles d'une certaine génération qui disent qu'à un moment donné...
Mais des elles ont 20 ans ?
20 ans.
Non, mais elles sont jeunes. Wow.
Entre 20 et 30 ans.
Ouais, mais c'est parce qu'elles ne savent pas encore.
Et je leur disais, mais vivez la vie en couple et vous verrez.
Ouais,
toi.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Même la vie professionnelle, ouais, à quel moment tu gagnes 4000 euros, c'est pas tout de suite.
Et elle disait aussi, pour finir avec mon propos, que... après, il y en a beaucoup qui sont de culture malienne, tout, tu vois. Donc dans leur tradition, dans leur culture, le mari doit payer le loyer, il doit payer. Il y en a une carrément qui m'a dit, mon futur mari doit payer 70% de ce qui se passe dans le foyer, tu vois, parce que il doit payer le loyer.
Et avec une calculette.
Et genre, mon salaire, c'est mon argent de poche, c'est-à-dire je fais ce que je veux avec, et lui, il doit tout assurer.
Ouais. Oui, mais nous, on est d'une génération où on nous disait pas, prends pas un smicard. Où tu disais, tu vois, on peut gagner le même salaire.
Ouais, parce qu'on était sur l'amour avant.
Oui.
On était sur l'amour et puis aussi, les salaires n'étaient pas spécialement les mêmes. En 75, les pouvoirs d'achat, il y a plein de choses qui ont évolué. Après, je pense qu'on fera un jour cette émission sur les femmes aussi. Maintenant, on a tendance à aller vers du bas de gamme, dans le sens où ça a un réel enjeu, même sur les violences faites aux femmes, les rixes, etc. Pourquoi ? Parce qu'une fille, on l'éduque en lui demandant d'être sérieuse, assidue, de bien travailler pour avoir un bon métier, etc. Pendant que dans certaines familles, les garçons ont moins d'injonctions vis-à-vis de la rigueur scolaire, le fait de respecter les règles, de rentrer à l'heure... Bah, du coup, quand elles arrivent, elles, sur le marché, là, et qu'elles doivent faire leurs courses pour trouver l'homme,
on parle de femme objet.
C'est vous la marchandise, là dans mon propos. Quand on doit venir vous choisir, parce que c'est nous qui vous choisissons, évidemment.
Sur les étalages.
Sur les étalages du marché, il y en a peu qui ont suivi sur les bancs de l'école, qui sont corrects, respectueux, et en fait, du haut de gamme, quoi. Dans les quartiers populaires notamment, on a des filles qui sortent avec des niveaux d'excellence et qui ne trouvent pas d'équivalence, et parce que les éducations différenciées, etc. Et là, il y aura un vrai sujet. Pour aujourd'hui, on le laisse, mais celui-là, on le garde en tête. Et les enfants,
C'était quoi le sujet? C'était l'hypermarché?
L'hypermarché. La viande, donc c'est vous, sur les étalages de la boucherie. Et nous, on a moins de pouvoir d'achat, donc on est obligé d'acheter de la viande déclassée.
Je pourrais être là?
Ouais. les enfants dans tout ça. Les enfants qui, eux, du coup, sont là, n'ont rien demandé à personne. On est d'accord, ils naissent, sont des pages blanches. Mmh. Et du coup, il y a plein d'empreintes qui viennent se coller à eux. Quand on parle de séparation, quand on parle de couple toxique, quel est, selon vous, le réel enjeu pour nous en tant que parents? À partir du moment où on donne la vie, à partir du moment où on est parent, quelle est notre responsabilité et où est le réel enjeu au moment des séparations? Est-ce qu'on pose le sujet en se disant, et les enfants dans tout ça? Parce qu'on voit des familles qui se déchirent, même si elles se sont aimées. Y a des questions autour de la violence, ça dénigre. Et les enfants dans tout ça?
On peut rester dans le domaine de l'hypermarché et aller au rayon...
Non, pour les enfants, non, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche que pour les hommes.
Non.
Mais attends,
non.
Il va aller dans quel rayon?
Hein? Vas-y.
Quel rayon?
Les rayons nettoyage.
Voilà.
Les enfants, c'est des éponges.
Ouais.
Ouais, bah oui, c'est clair.
C'est bien trouvé ou pas?
Ouais, pas mal. En plus, quand t'as dit rayon nettoyage, j'allais dire cette émission, c'est la dernière qu'on va tourner. Non, clairement, c'est des éponges. Vas-y.
Ouais, c'est-à-dire que, en fait, les enfants, ce sont des mini-nous. Que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. Et donc, tout au long de leur vie, de leur construction, tout au long du temps qu'ils passent avec nous, ils s'imprègnent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ressentent. Donc, forcément, le comportement des parents va influer d'une manière ou d'une autre, positivement et négativement, sur l'enfant. C'est indéniable.
Ouais, mais tu vois, par exemple, est-ce que déjà, les choses, elles commencent pas là? Il y a quelque chose que tu as dit qui semble tellement anodin. Ce sont des mini-nous. Ce ne sont pas des mini-nous. On met au monde des enfants, on les éduque, ils ne nous appartiennent pas. Et en fait, déjà, de là, il y a une différence qui se fait, une gymnastique intellectuelle. Nos enfants ne sont pas nos propriétés. Oui, mais... Ils vont grandir, penser, ils sont en
plein... Oui, mais il y a une nuance.
Ils ont leurs propres émissions. Mais non, mais en fait, pourquoi je dis mini-nous, c'est que mini-nous, ça dit tout de suite de notre enfant qu'il est notre continuité.
Non. En fait, ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. Je l'ai dit. C'est-à-dire que, tu vois, même ton enfant, physiquement, tu vois, même si ton enfant, il va se construire, il va évoluer à sa manière. Mais même dans une démarche, par exemple, un enfant, il peut ressembler à son père ou à sa mère. Ça, même dans la démarche.
C'est du mimétisme, en fait.
Et dans le comportement, même si il va lui-même se construire, parce qu'il va avoir d'autres expériences, il va avoir d'autres expériences que les tiennes, mais indéniablement, tu vas retrouver des similitudes. C'est indéniable dans la démarche, dans le caractère, dans plein de choses. C'est pour ça que je dis que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est un mini-nous. Après, c'est pas oui, mon enfant, il m'appartient. Bien entendu qu'après, il va faire son chemin.
Mais indéniablement, c'est important que je te laisse exprimer et nuancer ce propos parce que on sait comment ça fonctionne. Ça veut dire que là, on parle d'un sujet qui est tabou, la parentalité en France. En plus, ça va tout doucement et des fois, un petit propos comme ça, il va être détourné.
Et je suis dans la sauce.
Exactement. Exactement. Sur Internet. Exactement. Et c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler que le concept de parentalité sont des parents qui échangent avec juste la casquette de parent. Ouais. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des scientifiques, on n'a pas étudié sur la question. On veut juste se poser et échanger et donner son point de vue en tant que parent pour que tout le monde, chaque parent aujourd'hui en France et dans le monde, peut parler de son expertise en tant que parent. On n'a pas besoin d'être un professionnel, on n'a pas besoin d'avoir 10 enfants, on n'a même des fois pas besoin d'avoir d'enfants pour donner son avis. Et c'est les marges de progression et ce qui ne va pas sur ces questions de parentalité. Et pour que tout le monde puisse le faire, c'est important que justement des plateaux comme ça voient le jour pour que... Bah oui, je suis parent, mais j'ai une expertise aussi. Ouais. J'ai des choses à dire. Ouais. Et il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Et même si sociétalement parlant, ce n'est pas entendable, bah je le pense, alors je le dis parce qu'il y a d'autres parents qui le pensent et qui n'ont pas l'espace pour le dire. Donc merci Anne, parce que du coup, ça nous permet aussi de réactiver, de se dire que on s'excuse déjà auprès des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec nous et venez donner votre point de vue. Mais par contre, qu'il n'y ait pas de jugement sur ce qu'on peut dire ou les tocs de langage.
Mais là, je pense à un truc, excuse-moi de tout couper. Ce serait bien qu'on fasse une émission parentalité avec du public.
Ouais.
Ouais. Parenthèse fermée.
Mais moi, je voudrais bien rebondir, Aminata, vas-y. Si tu me le permets, si, ouais. Si tu voulais parler,
Marie,
sur un truc, parce que là, c'est présent, c'est que justement, on ne nous laisse pas le droit, et c'est très important là ce que je vais dire, franchement, parce que c'est du vécu, on ne nous laisse pas le droit de dire ce qu'on pense en tant que parent. C'est-à-dire, c'est souvent, en tant que parent, les enfants qui ont raison, c'est les enfants qui ont le droit de tout faire, qui ont tous les droits, mais nous, on n'a plus le droit de s'exprimer. Devant des professionnels, un juge, moi j'ai vu, j'ai essayé naïvement, et ben vous stigmatisez l'enfant, on m'a pointé du doigt partout. Hein. Devant le juge, j'avais pas le droit de dire mes émotions ou ce que je ressentais en tant que parent. Je n'étais pas là pour porter un jugement ou quoi que ce soit, mais ça on n'a plus le droit. Sans qu'on nous colle une étiquette.
C'est important ce que tu viens de dire, Nawel, parce que je pense qu'il y a plein de parents qui se retrouvent dans ce que tu viens de dire. Ouais. Que tu sois, et encore plus chez les parents qui font le choix, ont le courage, osent sortir d'un couple qui est toxique et qui ne leur convient plus, eh ben, on ne sait plus comment faire. Et pour l'inceste, exactement, c'est pareil. Hein. Mmh. Tu dénonces l'inceste, on dirait que c'est toi qui... Enfin, même celui qui essaye de protéger, des fois, ils finissent par dire « si j'avais su, je ne l'aurais pas dit ».
Voilà, et c'est ce que j'ai dit, moi, c'est ça, si c'est j'avais cette su, je ne l'aurais pas dit, parce que ça, en fait, ça se retourne contre nous.
Il y en a beaucoup qui ont ce ressenti.
Et on nous pointe du doigt, on dit « ça ne va pas, aidez-moi, je n'arrive plus, je suis à bout ». C'est ta faute.
Ah ouais.
T'es une mauvaise mère. Moi, je parlais de ce que je ressentais par rapport à mon enfant, que c'est tout ce qu'elle me faisait subir. J'avais pas le droit. J'ai dit, mais pourquoi j'ai parti le dire ? C'était moi la méchante face au.
C'était c'est moi comme la si méchante. C'était pas acceptable
pas
qu'un
acceptable.
Adulte puisse verbaliser le fait que son enfant le mette en souffrance. Parce qu'il y a le parent qui met en souffrance, mais il y a des enfants qui, malheureusement, mettent leurs parents à mal.
En France, c'est très compliqué. C'est le parent le responsable et elle doit ravaler sa souffrance et ne pas tomber et rester debout. C'est-à-dire, même l'enfant peut te taper, peut t'insulter, peut te rabaisser. Par contre, il a le droit. C'est un enfant. Moi, j'ai dit au juge, non, je n'accepte pas. J'ai dit au service sociaux, je n'accepte pas. Je peux me battre, je peux faire des efforts, je peux faire tout ce qu'il faut, me remettre en question, me dire, oui, là, je ne suis pas parfaite. Mais par contre, j'ai dit, on ne peut pas accepter qu'un enfant puisse se retourner contre un parent. De
se
même
frapper,
qu'un parent, voilà, dans le sens. Mm-hmm. Par contre, on n'a pas le droit de verbaliser. On n'a pas le droit.
Est-ce que dans ce que Nawel elle est en train de dire, il n'y a pas aussi quelque chose d'inaudible parce que inacceptable à concevoir et à entendre ? Si on part du principe que on éduque les enfants, qu'on les accompagne à mûrir leurs propres réflexions, à se construire à leur libre arbitre, etc. Et de l'autre côté, c'est petit, c'est mignon, c'est innocent. Du coup, qu'est-ce que ça dit de la société ? Quand on arrive à un stade où les enfants se mettent à frapper les adultes, voire leurs parents, comme dans ce que tu dis. Mais c'est exactement la même chose quand on parlait de dénoncer un enfant victime de violence. Les dans enfants qui se faisaient battre, c'était tellement inaudible pour la société. Ça veut dire qu'il faut accepter une responsabilité collective. Si on est dans de la coéducation, il y a le parent, il y a l'enfant. Il y a tous les adultes qui gravitent autour.
C'est surtout hypocrite parce qu'on dit que en France, c'est dur hein, ce que je vais dire. Peut-être que c'est un tabou encore. Moi, je rentre dans des sujets épineux.
Ouais,
là,
mais dis-le.
Ça va faire mal. Hein. Mais ça veut dire qu'on dit qu'on a le droit, soi-disant, en France et partout, hein, dans le monde entier. Moi, j'habite en France, je suis française, donc je dis ce qui se passe en France. Pas pour parler mal sur la France, je suis française. Mais on dit qu'on a le droit, il faut dénoncer les violences. Quelle qu'elle soit, et que là, on n'a pas le droit de laisser passer ça, mais quand c'est notre chair, notre enfant, par contre, alors là, c'est un enfant. Alors que l'enfant est très intelligent devant un juge, il va pas faire le fou, hein, il va pas faire le malade. Hein. Mais par contre, et encore plus en tant que femme, je parle de parents, mais femme, alors là, c'est encore autre chose. C'est encore de la faute de la mère si l'enfant est violent. Donc c'est encore double peine, triple peine, c'est de votre faute, madame. Si l'enfant est violent, c'est qu'il y a un problème avec vous. Ouais, c'est un truc sans fin, quoi. Donc, ça, c'est pas acceptable.
Et je pense que du coup, par rapport à ce que tu es en train de déposer, et comme il y aura d'autres émissions, mais il y aura vraiment une émission dédiée aussi à cette question de la place des enfants. Comment on respecte le fait que ça soit des personnes à part entière, mais comment on ne fait pas culpabiliser non plus un parent quand, dans certaines situations, c'est avéré qu'il y a aussi besoin de sécurité et de cadre Est-ce que vous voulez mettre les pieds dans la tasse?
Non, monsieur? En fait, je pense que là, on parlait de responsabilité. Et moi, je voulais faire un petit parallèle avec les émeutes. Parce que tu disais
j'ai une question.
Parce qu'en fait, tu disais que souvent, on disait que c'était de la faute des parents et des mamans, en règle générale. Et c'est vrai que là, il y a eu les révoltes au mois de juillet, suite à la mort de Naël. Et c'est vrai que les politiques s'en sont pris aux mamans, aux familles monoparentales. C'est vrai qu'on...
Surtout à la mère de Naël, il y avait eu un truc avec...
Voilà, donc on a beaucoup remis en question la responsabilité, les responsabilités des mamans.
Des familles monoparentales.
Des familles monoparentales. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai beaucoup parlé, déjà.
L'été dernier, il y a eu les émeutes. Suite à la mort de Naël à Nanterre, les familles monoparentales ont été mises en cause dans les médias fortement. Qu'est-ce que ça vous a renvoyé? Est-ce que vous étiez d'accord? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord? Quel est votre avis? Là, vraiment un avis personnel en tant que parent. Tu vois, moi, la première chose que je me suis dit, par exemple, c'est les familles monoparentales, elles ont beau dos. Elles ont bon dos. Il y a des difficultés certaines, peut-être dans l'organisation, la mise en place de certaines choses, mais vous avez bon dos. Parce qu'on a plein de familles traditionnelles qui ont des enfants déviants et qui étaient dans les émeutes. Et du coup, des fois, quand je me dis, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on vient indexer les familles monoparentales. Alors oui, c'est difficile. Oui, elles ont la vie dure. Oui, ils ont aussi la vie dure. Et que c'est mais lié à une organisation, en fait. C'est que tu ne peux pas être à plein d'endroits différents. Exactement. Mais est-ce que vous, qu'est-ce que vous êtes dit, vous? Quand vous avez allumé les infos et que vous avez entendu, oui, les familles monoparentales, elles sont dépassées. C'est pour ça que les enfants sont dans les rixes et font des violences urbaines et ne respectent pas la loi et qu'ils en meurent par la suite. Qu'est-ce que ça vous a renvoyé d'entendre ça? Est-ce que vous étiez d'accord? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord? Mitigé?
C'est de déplacer le problème. Hein. Là, ils déplacent le problème. Là.
Et puis là, c'était un gros mix de tout. Il y avait aussi le... Enfin, ils ont tout mélangé. Mais je ne sais pas, je...
Ils sont tous mélangés.
Je me dis, oui, mais en fait, voilà, on fait ce qu'on peut et il y a des difficultés partout. Je ne l'ai pas appris... Enfin, j'ai l'habitude maintenant avec les médias, il faut forcément qu'il y ait un bouc émissaire.
C'est encore culpabilisé. On rentre encore Aminata, dans la culpabilisation, ouais. Du parent, de la maman, encore dans le même schéma. Culpabilisé, comme si que ça allait aller mieux, quoi. Comme si que on
et avait... toi, Steph? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, ouais, comme d'hab? Est-ce que tu t'es dit, franchement, pas forcément Ou qu'est-ce que tu te dis là, maintenant, quand je te le dis? Qu'est-ce que ça te renvoie?
Je ne dis pas forcément, parce qu'on a vu sur... sur les réseaux, une vidéo qui tourne, c'est un papa qui va chercher son fils en bas de la cité qui est en train de cramer et il le met dans le coffre. Bref, c'est un père, peut-être que c'est un papa seul, mais on suppose c'est une famille dite normale, entre guillemets. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout dans ces émeutes, il y avait tout. Il y a des défaillances. Chez des familles monoparentales, ouais, comme il y a des défaillances dans une famille traditionnelle. Après, je sais pas si c'est une cause à effet, si on peut, enfin, je sais pas,
ouais, c'est compliqué, hein.
Paraît, ouais. Ouais,
et vous les garçons?
Moi je dis c'est juste pour se dédouaner, parce que ça fait partie, parce que faut pas non plus être dans un déni. Aujourd'hui, l'éducation d'un ado est de plus en plus difficile. Pour moi, et on y reviendra après, pour bien éduquer correctement sur le long terme, il faut être épaulé. Pas forcément deux, mais être épaulé. Donc, je pense que oui, ça doit jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et souvent quand c'est les mamans, et que tu es face à un gaillard qui ne respecte plus les règles, bah, c'est compliqué. Parce qu'il y a plein d'enjeux derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé aussi de l'enfant roi. Souvent, quand il y a des séparations, bah, la maman doit pallier au niveau affectif. Donc, des fois, elle laisse peut-être passer trop de choses. Le jeune, il se construit là-dedans. Donc, il y a plein d'enjeux. Mais moi, je pense qu'il y a différents. C'est multifactoriel. Donc, il y a ce facteur-là. Il y a aussi ce truc de d'appartenance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne pensent plus ou ne se disent pas appartenir à la communauté nationale. Donc il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel. Mais je pense que là, le fait de pointer les familles monoparentales et sortir le drapeau, là, facile, mais quand même important de la parentalité. Parce que là, on a l'impression qu'en 2023, ils ont découvert le mot parentalité. Accompagnement à la parentalité, on a l'impression que c'est un mot qui a été inventé en 2023. Et alors, c'est ça qui est un peu dommage.
Est-ce que... on parle aussi de la pauvreté dans les familles monoparentales. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les familles, en tout cas l'INSEE a fait une étude et il semblerait que les familles monoparentales soient plus précaires, mais surtout qu'il y a 21% de ces familles qui sont des familles nombreuses. Ça veut dire que aujourd'hui il y a une cause à effet du nombre d'enfants, et en plus elles vivent dans des appartements souvent qui sont surpeuplés, parce que souvent dans les grandes villes où les appartements sont plus petits, et du coup tu as des familles monoparentales qui rencontrent aussi une réelle difficulté, c'est l'accès au logement quand tu es tout seul. Donc quand tu as beaucoup d'enfants, surtout que c'est lié aussi aux conditions de revenus pour pouvoir déménager. On s'arrête sur ça un peu, sur la précarité, la difficulté de la force financière dans les familles. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez ressenti? Que ça soit en étant en famille monoparentale, est-ce que du coup vous avez dû multiplier les emplois, ou est-ce que vous êtes retrouvé dans des fragilités financières? Et quand on est enfant issu d'une famille monoparentale, bah, est-ce que c'est difficile?
Ça a été très dur, très très dur financièrement. Enfin voilà. J'ai toujours fait en sorte de. En plus, en même temps, j'ai lancé mon entreprise. Enfin, vraiment, j'ai pas. Enfin, quand j'y repense, je me dis, mais putain, tu t'es foutu dans une galère. Mais ouais, c'était dur. Mais tu réussis, en fait. Et le pire, en fait, c'est plus la pitié des autres.
Quand t'as ressenti ça, toi?
Ouais, moi, j'ai ressenti beaucoup de pitié. Genre, quand je disais, bah non, je viens pas au resto, ou je viens pas, machin, parce que bah, je peux pas, en fait. Et c'est, ma pauvre, je suis vraiment désolée. Enfin, il y avait vraiment une espèce de... Enfin, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Ouais, c'est humiliant, en fait. C'est plus ça que j'ai trouvé ça difficile. Mais oui, bah, ouais, j'ai des souvenirs de regarder mon compte en banque et de pleurer, quoi. Mais voilà. Ça, après, on arrive à... T'arrives à un moment donné à te bouger et tout. Ça, et puis à te dire, bon, quand même, j'ai un toit sur ma tête, on arrive quand même à manger à notre faim. Donc, c'est déjà ça, tu vois.
Steph, pour toi.
Moi, face à cet obstacle, en fait, je pense que j'ai été entre guillemets privilégiée. C'est peu de le dire, parce que bah, j'étais fonctionnaire, donc du coup, pas vraiment de pression au-dessus de ma tête comme une maman seule qui a un CDI, ou toi qui montais ton entreprise. J'avais des parents qui pouvaient m'aider. Donc du coup, deuxième filet de sécurité. Et comme moi, il me faut plein de filets de sécurité, j'avais pris un deuxième travail pendant plusieurs années, le soir, le samedi soir. Donc du coup, ouais, c'est vrai que voilà. Mais c'était ce besoin aussi sécurité pour mon enfant. Et du coup, mais c'est vrai que ce que tu dis, par exemple, je l'ai pas vécu de cette façon. Mais je suis consciente que plein d'autres maman ou papa sont confrontés à ça.
Avant d'avoir les pieds dans la tasse et de basculer sur les familles recomposées, quels sont les avantages et les avantages dans une famille monoparentale? Est-ce que vous arrivez à en identifier quelques-uns? Parce qu'il y a aussi des avantages, je parle d'un point de vue éducatif.
Bah oui.
Allez, la liste.
C'est bien ça. Déjà, le lien avec ton enfant, le lien privilégié avec ton enfant. Alors, ça dépend peut-être du caractère de l'enfant, mais le lien privilégié que tu as avec ton enfant, ça c'est incontestable. Et puis, t'es seul. Tu prends les décisions seul. Il n'y a pas de prise de tête à côté avec quelqu'un. Voilà. Ça, pour moi, ça reste. Mais bon, le lien privilégié avec ton enfant, ouais, c'est.
Ah bah oui. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait de la difficulté financière. Certes, au début, c'est difficile. Et puis après, on trouve des solutions parce que, comme tu dis, on peut multiplier les emplois, etc. Mais du coup, on devient indépendant financièrement aussi. Parce que du coup, là, il n'y a plus... ton équilibre et tout ce que tu bâtis, c'est pas que c'est fiable et durable, mais quand tu vas te remettre en couple, c'est une source en plus de revenus, mais certainement pas en moins.
Et puis, tu mènes ta vie comme tu as envie, en fait. Tu n'as pas besoin... c'est toi et ton enfant. Ton enfant, il dépend de toi de toute façon jusqu'à un certain âge. Donc, les décisions, tu les prends seule.
C'est l'éducation de ton choix.
Ouais, voilà, l'éducation de ton choix. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui faut que tu tires.
T'apprends à gérer, ouais.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non,
Stéphanie.
Non, mais j'avais fini.
Non, j'ai même pas fait exprès, c'est parti. C'est parti tout seul.
On dirait que t'as jeté sa cuillère.
Ouais. En fait, t'apprends à gérer, à très organiser.
Ouais.
Et à gérer autrement. Parce que là, tu sais que t'étais dans le rouge, tu sais que là, t'as galéré, tu sais que là, tu pleures, tu tombes, et après, t'as peur et t'as plus envie.
Ouais.
Et tu apprends à. Tu sais que t'es seule, quoi.
Tu développes des compétences, en fait, voilà. Qui sont utiles.
Exactement.
Que t'aurais pas forcément développées si tu avais une personne complémentaire qui.
Exactement.
D'accord. Avant de passer sur les familles recomposées, les garçons, est-ce que vous aviez envie de mettre les pieds dans la tasse par hasard?
Ouais, moi j'ai. Pardon. Moi, j'ai... En plus, c'est un truc que je dis souvent. Et je l'ai dit tout à l'heure, à demi-mot, c'est que pour moi, je trouve que je reviens un peu sur un... On parlait d'injonction, on parlait de construction. Je trouve que là, depuis l'avènement des féministes, c'est-à-dire que là, on va dire depuis 15 ans à peu près, 15 ans à peu près, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discours qui circulent. Et comme maintenant, la grosse force de frappe des médias et de la communication sont les réseaux sociaux, je trouve que beaucoup de gens sont lobotomisés aujourd'hui. Et dans les discours que moi, je vois circuler, il y a beaucoup ce truc de rester seul. Rester seul. On prône, en fait, j'ai l'impression, hein, c'est mon impression, que rester seul, c'est bien. C'est-à-dire qu'on met souvent en avant les choses positives et on parle rarement des difficultés du fait d'être seul. Et donc moi, je pose la question, est-ce que on peut rester seul?
On a tous peur.
Est-ce que non? Est-ce qu'on peut? Parce que si moi je me fie à ce que je vois, les gens disent que c'est cool de rester seul.
Non, voilà. C'est pas vrai.
C'est cool d'être seul. On peut être seul, c'est cool. On peut faire des sorties, on peut faire des rencontres. En plus, comme maintenant les rencontres sont simples avec les réseaux sociaux, on fait un max de rencontres, on part en voyage. On vit une deuxième jeunesse et tout. C'est cool d'être seul.
Au début.
Et donc moi, je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision qui, je trouve, est beaucoup propagée?
Non, moi, je ne suis pas d'accord déjà. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. On ne peut pas rester seul. On ne peut pas vivre. C'est un leurre. On ne peut pas rester seul.
Moi, je rejoins Nawel en tant que femme, en tout cas. Ouais, ouais. Je pense que même si on est beaucoup dans la critique de l'homme... On a besoin d'un homme.
Non, on a besoin d'un homme.
On a besoin, attention, on sait gérer.
Tu peux le dire.
Moi, je suis un peu plus nuancée. Je ne sais pas si... en fait, on a besoin d'amour.
On a besoin d'amour.
Et si on est totalement honnête, qui dit l'être humain est un être amour, qui a besoin d'amour, ça veut dire que le concept de vivre seul, il se questionne dans le sens où... l'amour que tu portes à tes enfants, à ta famille, à ton conjoint, c'est pas le même. Et cet amour charnel, fraternel, sentimental, le fait d'être accompagné de quelqu'un pour dépasser les difficultés de la vie, on apprend à faire sans, parce qu'on fait le choix de se séparer d'une personne qui nous convenait pas, ce qui ne veut pas dire que toutes les autres personnes ne conviennent pas. On entend des gens qui disent « moi, j'ai fait le choix de vivre tout seul, de ne pas être en couple. » On assume, on respecte ces choix-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne cherches pas l'amour de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de personnes âgées qui se remarient, qui flirtent alors qu'elles avaient tenu le discours de « je ne veux pas » Et du coup, il faut faire la différence entre « je suis une maman solo, je vis seule » ou « je suis un papa solo, je vis seule » et « je n'ai aucune relation » sentimentale avec quiconque, je veux juste rester seule. Et là, et c'est là où il faut faire ces recherches. Parce que les gens, ils disent, non, moi, je suis très bien tout seul. Ouais, t'es très bien tout seul, mais tu multiplies les relations.
Jusqu'à 80 ans, tu auras des relations.
Bah, il y en a qui choisissent ce modèle, qui vont avoir des relations sentimentales sans vivre avec... Bah quoi ? Moi, je suis sûre que si on fait une étude, il doit y avoir des hommes et des femmes de 80 ans qui ont des relations sentimentales avec d'autres sans vivre avec.
Et tu peux rester comme ça, à ton avis?
Il y en a. Parce que peut-être que la douleur, elle a été tellement profonde de vivre avec l'autre que tu ne renonces pas à l'amour et à être en couple, mais par contre, tu renonces à la vie de couple.
Moi, dans la maison. Il y en a qui moi, j'attends juste le... Marilyn. Marilyn et Bouba, après, moi, je vais donner mon point de vue là-dessus.
je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je sais que j'ai pas... je n'ai jamais revécu avec quelqu'un pour l'instant. Donc, mais je pense que parce que j'ai été très meurtrie, en fait. Et j'ai trop peur que ça recommence.
Mais est-ce que... est-ce
toi,
que
c'est un choix.
C'est un choix, mais est-ce que tu as des relations affectives ou pas?
Par peur. Donc, après, je pourrais me dire, bah non, ça pourrait être différent, tout ça. Mais en fait, ça a été tellement traumatisant, en fait, tout ça.
Mais quand tu dis que tu n'as pas revécu
quand
avec...
Quand tu vis avec la personne, les choses changent. En fait, il y a tellement de... voilà. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore au niveau où je me dis oui, pourquoi pas.
Mais Marilyn, tu n'as jamais revécu avec un homme, mais tu n'as jamais eu de relation, tu n'es ressortie avec personne.
Si, mais... Voilà.
En fait, c'est là la nuance. Est-ce que il existe des gens qui décident de renoncer à l'amour? C'est-à-dire, il n'y a pas que la vie de couple. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, moi je suis bien toute seule, mais ils sortent avec quelqu'un depuis 4-5 ans, c'est juste qu'ils vivent pas ensemble. T'es en couple, t'as juste renoncé à la vie.
Pourquoi tu veux aseptiser mon propos?
Non, mais parce que je suis pas d'accord avec toi.
J'ai rencontré beaucoup de femmes
je suis pas d'accord,
alors, qui maintenant ont plutôt une soixantaine d'années. j'ai la voix qui derrière. Et en fait, ces femmes-là, c'est fini. Enfin, vraiment. Tu parles avec elles. Elles ont quitté leur mari il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Et elles te disent « Ah non, mais c'est bon. » En fait, c'est comme si ça avait été tellement sacrificiel, en fait, pendant toutes les années où elles avaient été avec leur mari, que c'est genre « Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. J'ai pas envie qu'il y ait un mec qui vienne me déstabiliser dans mon quotidien. J'ai pas envie que... » Enfin, et il y a beaucoup de femmes comme ça, en fait. Et c'est vraiment... C'est limite, il n'y a même plus de relations... Même voilà, comme ça, il n'y a plus rien du tout. Elles sont contentes. Et elles ne sont pas. Enfin, je ne les vois pas malheureuses. En tout cas, elles sont plus heureuses maintenant que quand elles étaient avec leur mari. Donc, du coup, pour elles, elles se disent que ça va, en fait.
Bouba.
Ah, mais il y a ce monsieur-là qui.
Ouais, c'est pour ça. Toi d'abord, parce que.
moi, je crois que ça touche plus de femmes que d'hommes. Perso, moi, je connais plus de femmes qui, à un moment donné, même veuves, qui, à un moment donné, se disent je ne veux plus refaire ma vie. Terminus. Tu vois, et même plus de relations, plus rien. Tu vois. À l'image de ce couple, d'un footballeur qui est dans le coma depuis, je crois, 30 ou 40 ans. Là. Et sa femme, elle le soutient depuis. Après, je ne sais pas, hein, c'est parce qu'il se passe des choses à côté, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, dans l'image, on
ce
a l'impression.
Ce qui reste en off, reste en off.
Voilà, dans l'image, on a l'impression qu'elle est là et elle le soutient depuis.
Pour que Boba, il passe devant tout le monde.
Elle le soutient depuis. Bah depuis qu'il est malade, là. Il est sur un lit dans le coma depuis une trentaine d'années. Tu vois. Et moi, j'en connais plein de femmes, grand-mères aujourd'hui, qui aujourd'hui, ça fait 30 ans. 30 ans, 20 ans, ça y est, c'est fini avec mon mari. Il est décédé. Mais par contre, les hommes, je pense que c'est un peu plus compliqué pour des hommes. Tu
c'est
vois.
Compliqué aussi pour les femmes. Hein. Oui, parce que c'est tabou encore.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est compliqué, c'est-à-dire que je connais plein d'hommes qui allaient à 50, 60, 70, et c'est parti.
Ouais,
c'est fini avec ta femme.
Ils ne revendiquent pas le fait de ne pas avoir envie de se
remettre. Voilà, non, ils se remettent.
Ouais, mais parce qu'un homme, il a une facilité. En fait, on va dire, le choix, il est plus large en vrai.
Ouais, comment ça?
Non, mais quand je dis qu'il est plus large, c'est dans. Non, mais écoutez, c'est mathématique ce que je vais vous dire. C'est mathématique ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'une femme, en réalité, et je parle pour. Moi, je ne parle pas d'aventure. Je te parle pour construire quelque chose sur le long terme. Une femme, généralement, elle va prendre quelqu'un de plus âgé.
Pas toujours.
Ou de son âge. Ou de son âge. En tout cas, dans les. Moi, je parle toujours de la construction de la société ou de son âge. D'accord ? Un homme, il a l'embarras du choix avec les filles moins âgées que lui. Donc, même un homme, on va dire un homme de 50 ans, 55 ans, il peut se mettre avec une fille de 25, de 30 et autres. Alors qu'une femme, c'est très compliqué.
Après, il y a l'horloge biologique aussi.
Aussi.
Parce que si on est pragmatique, on vit quand même dans ce monde où, à un moment donné, il y a ceux qui peuvent faire des enfants jusqu'à 80 ans, 90 ans. Et malheureusement, il y a une partie de, de l'humanité qui, à un moment donné, à partir d'un certain âge, c'est plus possible.
Mais là, tu parles de construction. Mais il y a des hommes, des jeunes, Anne, si je puis me permettre, il y a des hommes plus jeunes qui sont attirés par les femmes plus âgées.
Ouais, mais ils veulent rien construire avec.
Contre, ils veulent pas, oui, mais par contre, ils leur font perdre du temps.
Ouais.
Parce qu'ils sont attirés par elles, elles leur plaisent au niveau, comment dirais-je,
leur apparence,
personnel, la personnalité, tout les intéresse à 90%. Mais par contre, ils veulent aussi papillonner et ils sont instables. Ouais, ils sont là avec plein d'autres filles, à discuter avec des filles, à parler avec des femmes, à faire leur life, quoi. Par contre, ils veulent te garder sous le coude.
Ouais, mais là, on est plus.
Toi,
on
t'as
est...
pas le temps. Toi, tu veux construire quelque
c'est
chose.
C'est ça.
Et
c'est
toi,
pour
tu
ça.
Veux construire.
C'est pour ça. C'est pour ça. Parce que le jeune, en fait, le fait, le jeune qui va aller avec une ancienne, il veut juste tester et expérimenter, c'est tout.
Alors, franchement, c'est la première fois, mais on apprend avec l'expérience qu'on aborde une thématique qui nous fait déborder le chrono. On avait les familles solo et les familles recomposées. On a très peu parlé des familles recomposées. On s'excuse déjà auprès des auditeurs de ne pas approfondir, mais on fera le parentalité spéciale famille recomposée parce qu'il y a là aussi énormément de choses, surtout sur les enfants et puis la place de ce conjoint qui rejoint la famille. C'est compliqué. La place dans la fratrie, est-ce qu'il y en a qui sont favorisés, pas favorisés, est-ce que, voilà. Les enfants qui n'acceptent pas ce conjoint potentiel. Il y a tellement de choses à dire qu'en fait, je me dis, vaut mieux être dans la qualité que dans quelque chose d'expéditif. Du coup, pour aujourd'hui, finissons sur le temps qui nous reste sur les familles solo. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Vas-y, Bouba.
Moi, je voulais juste dire un dernier truc.
Ah, tu peux dire encore quelques ouais. petits trucs, ouais.
Ouais, c'était pour mettre les pieds dans le plat à ma manière, tu vois. Sur un autre thème, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on se sépare, il y a plein de gens, malheureusement, ils font preuve d'égoïsme. T'as vu? Et je crois qu'il y a un travail de gestion de l'ego qu'il faut vraiment faire, tu vois. C'est-à-dire, ils se font du bien au détriment du bien-être de leur enfant. C'est-à-dire, c'est bon, je ne suis plus avec toi, mais je vais t'assassiner, comment dire, auprès de ton enfant. Je vais mal parler, je vais faire preuve de beaucoup de médisance au détriment du bien-être de l'enfant. Tu vois. Et ça, je pense qu'il y a une vraie gestion de l'ego. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Moi, je l'ai vu en direct avec des amis à moi, filles, qui je généralise pas, hein, mais je dis que j'ai vu des amis filles être là en comité en train de chacune descendre son ex devant leurs enfants. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous rendez pas compte? Et du coup, c'est une manière de se mettre, comment dire, que l'enfant prenne parti. Et du coup, elles se font du bien au détriment du bien-être de l'enfant.
Bah, pas réellement du bien, parce qu'elles
ça va se
retourner contre elles.
Oui, c'est clair. Non, mais elles se font du bien sur le coup, tu vois. Ah oui, je pars.
Sur le coup, ouais. Mais après,
en fait, tu te fais du mal. Et surtout du mal à l'enfant. Et pareil pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui, à un moment donné, se retrouver peut-être entre hommes ou même avec d'autres, avec des personnes, plein de gens, d'hommes et des femmes autour d'eux, qui vont, comment dire, faire preuve de médisance envers leur ex.
Je confirme.
Ouais, clairement. Et puis c'est intéressant, hein. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, Bouba, parce que y a pas d'école des parents. Il y a très peu, il y a des choses des initiatives qui commencent à se mettre en place, mais limite faudrait inventer ce concept d'accompagner les gens à se séparer, en fait. Il y a l'accompagnement à la vie de couple, il y a les thérapies de couple, mais en fait, comment on peut accompagner les gens quand ils sont dans l'émotion, parce que, en fait, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, à se séparer en prenant en compte, eux, leur bien-être aussi, et que l'autre en face, il ne te correspond plus, il ne te correspond pas, mais il y a eu de l'amour, et les enfants. Parce que les enfants, du coup, eux... quand on regarde autour de nous, il y a des couples qui se séparent dans la bonne entente, limite, tu te dis, mais comment ils font? Ils s'entendent super bien. Ils s'entendent même mieux que quand ils étaient en couple. Et du coup, pour ces enfants-là, bah, c'est souvent bien vécu, sauf l'acceptation de la séparation de ses parents. Mais les parents qui se déchirent, ces enfants-là qu'on retrouve dans les ateliers, à l'école, dans la cité, partout en fait, dans la cité au sens, au sens large du terme, qu'est-ce que vous pensez de ça, de tous ces enfants, en fait, qui sont lâchés dans la nature avec des parents qui se déchirent au quotidien?
Parce qu'il y a une mauvaise communication.
Des fois, j'ai l'impression que... mais c'est juste moi ce que je vois, hein, mais ce n'est pas forcément la réalité. Mais j'ai l'impression que quand ça se déchire, c'est généralement des couples qui ont attendu longtemps avant de se séparer. Qu'il y a eu tellement de trucs à...
Il y a eu tellement de
contrariétés, de souffrances, de trucs déjà au sein même du couple, qu'à un moment donné, en fait, c'est la séparation, c'est genre le...
Toi, tu crois?
J'ai l'impression, après, je dis Steph, pas, hein, mais...
je sais que t'es pas d'accord.
Non, ouais, je suis pas d'accord. Tu peux te déchirer, quand je dis dès le début, entre guillemets. Et je pense que des fois, tu es pris dans un tourbillon, tu ne maîtrises plus, tu ne contrôles plus. Alors ouais, tu sais qu'il y a ton enfant, tu le conscientises et tu te dis, mais il assiste à tout ça. Et en fait, tu es rattrapé par quelque chose de très malsain, la mésentente. Et faut faire un gros travail pour dire, là, je prends un autre cap parce que sinon, je vais détruire mon gamin.
Dans Raconte ta parentalité, Benjamine, elle est passée il y a quelques semaines. Vous pourrez retrouver son podcast sur Mon Paris FM ou sur les plateformes de téléchargement. Elle dit quelque chose de très important, très intéressant. Elle dit qu'au moment de sa séparation, elle prend sa fille et elle la confie. En fait, au moment où elle décide de se séparer, elle prend sa fille, elle la confie à ses parents. Bon, elle avait la chance de pouvoir faire ça. Parce qu'elle sait que ce qui va se passer, ça va être sale, entre guillemets. C'est pour dire que des fois, on conscientise et on sait que, en fait, quoi qu'on fasse,
il va y avoir de la casse.
Mais c'est un soulagement. C'est un soulagement.
Mais il y a de la douleur.
C'est un soulagement. Quand je dis c'est un soulagement, c'est que... après, ça dépend des ruptures. Quand c'est d'un commun accord, on danse ensemble dans les champs même. Tellement que les gens, ils sont... Moi, il y a des moments, je vois des couples qui ont vécu ensemble et qui sont amis, qui vont faire des restos. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible pour moi.
Ça, je comprends pas.
Pour moi, c'est impossible et c'est de la science-fiction.
Moi, c'est possible.
Si je puis me permettre, il y a eu un déchirement avant. Il y a eu un clash.
Et donc après, tu vas manger au restaurant?
Non, moi, je peux pas. Ou sinon, tu vois la nouvelle femme, on est ensemble. C'est impossible.
2-3 ans, 4 ans après, c'est possible.
Moi, même dans une autre vie, c'est pas possible.
Après, quand les choses sont plus apaisées, plus calmes.
Non, nous, ça fait 8 ans qu'on est séparés. Hors de question que je mange avec lui au resto. À la limite, je veux bien faire un effort si, admettons, c'est l'anniversaire du petit.
À la limite. On fait bonne figure.
Et genre, manger avec ça. C'est pas que je suis jalouse ou quoi. Mais non, mais c'est juste qu'on n'a plus rien à se raconter, en fait.
Non, mais c'est une question, hein.
On n'a plus rien à se raconter, moi j'ai rien à lui dire. Et puis en plus, si c'est pour avoir les choses qui m'énervaient déjà de base, sa façon de répondre ou de machin, c'est mort en fait. Moi ça m'intéresse pas, sérieux.
Non. Bouba, ton mot de la fin peut-être, on a dépassé les 1h30, on verra bien si ça plaît aux auditeurs. À chaque fois, ils nous disent que c'est trop court.
Non, je dis juste que ça va être bref. Excusez-moi, je mange du chocolat en même temps.
chocolat de l'hypermarché.
Hypermarché du marché matrimonial, tu vois. Moi, je pense que les questions de conflit En trek, c'est très compliqué dans la mesure où ce qui est en jeu, c'est la rationalité. C'est le fait de... Soit les deux, on est irrationnel, mais totalement. On part totalement dans le volcan, dans le piton de la fournaise, à la Réunion, tu vois. Soit il y en a un des, soit il y en a un des deux, c'est le piton de la fournaise, et l'autre est un peu plus rationnel. Et la chose, c'est qu'il faut vraiment faire preuve de... C'est un combat contre soi-même, hein. C'est un vrai combat. C'est-à-dire... Ah, c'est
clair. Eh ben, je suis désolée parce qu'on va rendre l'antenne, mais par contre, ce que je trouve génial, c'est que là, vous, chez vous, autour d'un thé, autour d'un café, discutez-en, continuez à prolonger les débats parce que est-ce que la rationalité, est-ce qu'elle est possible, pas possible, enfin, on vous laisse continuer à débattre. Nous, on n'a plus de thé. N'oubliez pas, Parentalité est une émission que vous trouvez en direct le mercredi à 19h sur la radio Montparis FM. On les remercie de nous accueillir. Et désormais, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à liker et commenter ce que vous voyez sur Insta pour justement continuer à débattre. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci à tous et personne ne doit rester à l'arrêt. Ciao, merci à vous.
Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci.